vient de paraître cet automne chez une très belle petite maison d'édition de Sudbury, dans le Moyen-Nord ontarien, Prise de parole, un recueil qui se nomme « Oublié » sous la plume de Sylvie Bérard. « Oublié », vous l'écrivez avec un « Z » à la fin, non pas avec un « R ». C'est pas de l'infinitif, c'est de l'impératif. C'est une histoire de fait d'oubli, de diminution. Il y a deux formes d'oubli là-dedans, une rencontre percutante de cet oubli. Sylvie Bérard est mon invitée aujourd'hui. Madame Bérard, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi oublier avec le Z?
Ah, ben ça, c'est la question qu'on me pose souvent. Ça a l'air presque d'une faute de syntaxe. Puis
non.
Je suis prof de littérature française, alors j'ai pas fait de faute de syntaxe. Non, ça dépend comment on lit. Ça peut être effectivement l'impératif, mais ça peut aussi être l'infinitif sans sujet, l'infinitif sans complément. On oubliait quelque chose dans la phrase aussi. Alors, c'était un peu comme ça que je voulais le voir, un peu avec polysémie, plusieurs sens.
Moi, je le voyais aussi avec trois petits points et un point d'exclamation.
Oui, tout à fait. Ou, comme on dit un peu dans la vie de tous les jours, ah, oublie ça, ou oublie donc ça.
Les espaces vacants, les miels arrêtés, ces yeux qui ne se posent pas, destin inassumé de petites places. C'est bien dit, c'est beau. Ça se lit avec tendresse. J'ai l'impression que vous l'avez écrit, en tout cas la première partie, là, la partie plus poétique que récit, presque avec une plume d'oie trempée dans de l'encre.
Oui, ben il y a un côté un peu suranné. En fait, c'est intéressant que vous utilisiez la métaphore de la plume d'oie parce que c'est ça, c'est du vouvoiement. Ça fait, il y a un côté courtois un peu là-dedans. Il y a aussi la distance du vouvoiement. Il y a un peu les deux dans le vouvoiement. Hein. Il y a le fait d'être poli, mais il y a le fait de dire aussi « n'entre pas dans mon espace ». Donc, c'est un peu les deux aussi. Mais oui, il y a peut-être un côté un peu... C'est un peu volontairement suranné de poésie un peu classique. Là.
Mais parlez-moi...
La poésie elle-même, le style n'est pas classique, mais le ton se voulait un peu classique.
Moi, c'était plutôt presque sur du papier parchemin une lettre personnelle à quelqu'un de très cher.
Oui, tout à fait, vous avez tout compris. Ben c'est ça, il y avait la lettre personnelle à quelqu'un, il y avait la lettre personnelle à plusieurs quelqu'un aussi. Donc j'ai essayé d'aller chercher un peu des éléments universels, mais en restant aussi très personnel. Il y a un élément très personnel, ce qui n'est pas une chose à laquelle je suis habituée d'habitude, parce que c'est mon premier recueil de poésie, mais il y a quelque chose de très intime là-dedans. Le déclencheur, en fait, il est double, hein, parce qu'il y a la deuxième partie aussi qui est sur l'oubli de l'Alzheimer, qui est le déclencheur très ouvertement autobiographique. Ma mère est décédée de l'Alzheimer. Donc, ça, c'est un déclencheur, disons, familial sur l'oubli. C'est en général aussi l'espèce de sentiment que je voulais rendre, d'avoir quelqu'un devant soi qui nous oublie, soit par choix, soit parce que la maladie ne lui donne pas le choix. Donc, il y avait c'était cet élément-là, cette frustration, mais cette envie quand même de continuer à communiquer, justement, peut-être d'où l'effet aussi épistolaire, l'effet d'envoyer une lettre à quelqu'un et dire « ne m'oublie pas, ne m'oubliez pas ». Donc, c'est un déclencheur intime.
Très, très intime, de fait, parce qu'il y a des parcelles, il y a des moments de grande absence, d'oubli total, il n'y a personne dans le regard. Il y a parfois comme s'il y avait une des pages qui se levait et la personne veut dire quelque chose, mais ne peut pas le dire. Il y a de la colère dans ce moment-là. Et dans votre narratrice, il y a une douleur de voir cette colère et il y a une douleur de voir cette absence.
Oui, ben c'est ça, il y a une colère retenue, une colère qu'on ne peut pas toujours, on ne peut pas en vouloir non plus à quelqu'un qui nous oublie sans le faire exprès. Puis en même temps, c'est frustrant parce qu'on se sent disparaître. Mais en même temps, quand on a un jeu bien solide, on se dit non, je ne disparais pas. Donc il y a ce décalage-là aussi entre le regard de l'autre. Puis parfois, il y a des moments fugitifs effectivement où On est là dans le regard. Il faut les saisir aussi. On le sent plus peut-être dans la deuxième partie, mais il y a des moments de déclic, et puis ensuite l'oubli revient.
Vous êtes détentrice d'un doctorat en sémiologie à l'Université du Québec à Montréal. Science-fiction écrite par les femmes. Vos passions, on parle de l'enseignement de la littérature des Premières Nations. La littérature franco-canadienne, vous êtes à l'Université Trent en Ontario. Vous avez écrit de la science-fiction. Et puis là, c'est de la poésie.
Oui, hein?
Madame est éclectique.
Madame est éclectique. Je suis éclectique aussi dans mes lectures. Je vois un lien, moi. Je le vois, le lien. Je vois un lien fort. Je m'intéresse beaucoup à la construction des sujets. Alors, je pense que même en science-fiction, même dans ma construction de moi-même aussi, je m'intéresse un peu à la fois... Tantôt, je disais que c'est intime, mais j'ai toujours le petit esprit analytique au-dessus aussi. Mm-hmm. Alors, je vois cette constante-là. Je m'intéresse beaucoup aussi à peut-être... Ben, l'oubli, donc, la temporalité aussi.
Oui, et la finalité de la vie aussi, c'est ça.
Oui, mm-hmm. C'est ça. À la fin de mon recueil, il y a aussi un mini-essai que j'ai écrit sur l'oubli aussi, qui est plus théorique, qui explique aussi un peu comment je vois le rapport aussi social à l'oubli, même le rapport de Facebook à l'oubli.
Absolument, Twitter, mais voilà.
L'histoire qui devient très, très courte. Facebook est rendu qui nous rappelle ce qui s'est passé le mois dernier. Avant, c'était 1 an, 5 ans, mais maintenant, ça nous dit, ah, voici la récapitulation de votre mois, mais l'histoire va devenir tellement courte, à un moment donné, ils vont nous dire « Voici ce que vous avez fait il y a 2 minutes. » Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse, je pense, un peu partout dans ce que je fais.
Oui, vous avez emprunté un jeu de mots à Locolocas, la mémoire porteuse poreuse.
Oui, ma petite contribution politique.
Comment est-ce que ça se vit d'enseigner la littérature franco-canadienne à l'université anglophone en Ontario?
Ben, c'est intéressant. C'est à la fois aussi, ben, tout à l'heure, on parlait d'être dedans et dehors en même temps. C'est un peu ça aussi parce que, bon, je sais très bien que quand j'enseigne la littérature québécoise ou franco-canadienne à mes étudiants, ils sont dans mon cours pour 3 heures, puis ensuite, ils s'en vont parler anglais. Mm-hmm. Il y en a quelques-uns qui sont franco-ontariens, quelques-uns qui sont plutôt anglophones, mais qui ont fait de l'immersion. Alors, mais je sais très bien que la majorité de leur vie se passe en anglais. Je sais aussi que, moi, ce que j'écris, mes collègues ne le lisent pas parce que mes collègues sont en majorité anglophone. Alors, je suis toujours un peu entre les deux. Je suis d'origine montréalaise, mais je suis plus là depuis une vingtaine d'années aussi. Donc, je regarde le milieu littéraire québécois un peu à distance. Je me sens... Parfois, mes livres sont à distance aussi du milieu montréalais. Donc, mais j'aime bien ce point de vue-là en même temps. Ça me donne un recul, justement. Ça me donne une position d'observatrice. Et puis, enseigner la littérature, c'est aussi apporter... Il y a un côté presque prosélytique là-dedans, apporter la bonne nouvelle. Oui, il y a de la littérature francophone qui s'écrit, et en voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé même le cours de littérature franco-ontarienne qu'on n'avait pas à Trent. Mm-hmm. Ben, je me disais, mais ces étudiants-là, on leur fait lire Balzac, mais on ne leur fait pas lire les auteurs franco-ontariens.
D'Alpé et compagnie, voilà.
Oui, c'est ça. Et puis, ils sont tout étonnés. Soudain, ils lisent, je sais pas, Margaret Anderson, ils disent « Ah, mais il y a un roman français qui se passe à Toronto, wow! Mm-hmm. » Alors, c'est vraiment une mission aussi là-dedans.
Karim Djinko et combien d'autres, oui, c'est ça.
Oui, oui. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Puis, ça leur parle de leur milieu. Et à l'inverse, mais pas tout à fait avec la littérature des Premières Nations, la littérature autochtone, ben là, c'est parfois un peu plus loin parce que ça va être peut-être dans le Nord québécois, parfois, pour trouver de la littérature francophone. Mais là, ils découvrent une littérature très jeune, une littérature de leur âge. Pas que c'est une littérature jeune, mais les auteurs qui écrivent en ce moment sont... Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui écrivent, et moi, je me fais un plaisir de leur faire découvrir ces jeunes auteurs-là aussi. Ils découvrent des gens de leur âge et non pas des vieux monsieur français qui écrivent. Ils écrivent Natacha Canapé-Fontaine.
Oui.
Que Molière, disons.
à lire tranquillement avec un bon thé chaud, une doudou, quelque part pendant une tempête de neige, oublié chez Prise de parole sous la plume de Sylvie Bérard. Sylvie Bérard, merci d'avoir été des nôtres. À vous.
Je vous remercie beaucoup.
Très, très, très joyeuse année 2018 et à vous retrouver en plume et en publication quelque part.
Vous, madame, ne m'oubliez pas.
Au revoir, ma chère.
Au revoir.